savoir ce que c'est exactement que le cinéma.
Moteur !
Les films sont plus harmonieux que la vie, Alphonse. Il n'y a pas d'embouteillage dans les films, il n'y a pas de temps mort.
Tous les cinémas du monde. Tous les cinémas du monde. Sophie Dorlotin, Elisabeth Le Quéré.
Connaissez-vous Victor Tsoï et Mike Naumenko? Ces deux chanteurs sont peu connus en Occident, mais ce sont des icônes de la musique moderne russe, surtout Victor Tsoï, mort tragiquement à 28 ans en 1990. Un film, Leto, sorti cette semaine sur les écrans français, retrace leur rencontre dans le Leningrad Underground de 1982, dans la grise Russie soviétique. Bonjour Elisabeth.
Bonjour Sophie, bonjour à toutes et à tous.
Mike Naumenko et Victor Tsoï sont les héros de ce cinquième long métrage de Kirill Serebrennikov. Le cinéaste étant assigné à résidence en Russie depuis plus d'un an, c'est son producteur français Charles-Évrard Tchekhov, accompagné du grand connaisseur du cinéma russe Joël Chaperon, qui viendra nous en parler dans une vingtaine de minutes. À l'affiche également de notre cinéma ce samedi, un film horrifique et engagé américain, Assassination Nation. Un documentaire sur les Noirs américains de Louisiane, What You Gonna Do When the World's on Fire, et puis un reportage à Saint-Louis du Sénégal aux côtés d'étudiants en cinéma. On part en Afrique tout d'abord pour notre tour du monde de la planète cinéma. Elisabeth, les rencontres cinématographiques de Bamako sont de retour.
Et oui, elles sont de retour après 6 années d'absence. Donc si vous êtes habitant de Bamako, eh bien vous avez jusqu'à lundi, jusqu'au 10 décembre pour profiter de ces 4 jours de projection, de conférences, d'ateliers, de formation. Et ces rencontres, Sophie, eh bien elles vont se prolonger avec un projet de plus grande ampleur. Ça s'appelle Récits de migrants. Et donc c'est un appel pour réaliser à terme des fictions inspirées de récits réels de migrants, donc affaire à suivre dans les prochains mois, voire les prochaines années.
Girl de Lucas Dont, censuré aux États-Unis.
Oui, on avait reçu Lucas Dont, le réalisateur de ce film sur un adolescent en pleine transition sexuelle. Donc il a été diffusé sur Netflix aux États-Unis dans une version amputé de quelques scènes, notamment les scènes de nudité frontale. Donc la plateforme en fait a suivi l'avis de la toute puissante MPAA, la commission de classification américaine, qui avait décrété que ces scènes étaient à teneur pédo, je cite, pédopornographique, ce qui laisse tous ceux qui ont vu le film pour le moins perplexes.
Et en tout cas, Girl est déjà renommé aux États-Unis. Il vient d'être nommé au fameux Golden Globes.
कौन
सुनो ना लाइफ बदलने वाला है तुम्हारा 25 दिन है बचा लेना अपने शहर को
Censure aux États-Unis, mais liberté en Inde.
Oui, comme disait Pascal, vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. Eh bien voilà, censure appliquée par Netflix aux États-Unis, mais contournée en Inde, où la plateforme apparemment a bénéficié d'un vide juridique pour diffuser cette série Sacred Games. C'est une série, en fait, Sophie, sur les entrailles mafieuses, criminelles, terroristes de Bombay, avec des scènes très très explicites, sexuelles, violentes. Une série qui a fait grand bruit en Inde, qui a motivé apparemment quelques pétitions hostiles à la plateforme, ce qui n'a pas refroidi Netflix, puisqu'apparemment une deuxième saison est en cours de tournage.
Notre trouver Oswald le lapin.
Oui, Oswald le lapin, personnage emblématique du dessin animé. Oswald, il est considéré en fait comme le précurseur de Mickey. Il est le héros d'un petit film de 5 minutes réalisé en 1928, Neck and Neck. Un film qu'on a longtemps considéré comme perdu. Eh bien non, Oswald le lapin n'était pas perdu. Il dormait depuis 70 ans chez un historien du cinéma japonais qui avait acheté la bobine pour quelques yens quand il avait 16 ans.
Trop mignon. On termine ce tour du monde au Sénégal et plus précisément à Saint-Louis où se tiennent ce samedi les 6e trophées francophones du cinéma. La nouvelle génération du cinéma africain est à l'honneur avec par exemple le film d'Alain Gomis Félicité, nommé dans plusieurs catégories. Et puis la relève est là. Une nouvelle génération de cinéastes se forme à Saint-Louis car l'université de la ville se bat pour offrir une formation exigeante à ses élèves. Reportage sur place de notre correspondant William Delesseux.
Le cinéaste sénégalais Moussa Sène Absa s'installe devant les étudiants de l'université Gaston Berger. Il est au centre d'une masterclass de près de 3 heures. Le réalisateur a un mot d'ordre pour les plus jeunes, ne vous cachez pas derrière la caméra.
La formation, elle ne se fait que par l'apprentissage, elle ne se fait que par la connaissance, par la lecture, par le voyage, par la réflexion, par le regard. Qui es-tu pour raconter une histoire ? Pourquoi tu veux me raconter une histoire ? Ça me sert à quoi ton histoire ? C'est autant de questions qu'un cinéaste doit se poser.
Quelques extraits de ces films ont été choisis. Des films sénégalais peu ou pas connus par les étudiants dans la salle, constate Seyou Diallo, enseignant-chercheur.
Et il faut absolument le corriger. C'est lié aussi au fait que peut-être que les films ne circulent pas comme il faut, qu'il n'y a pas de médiathèque comme dans d'autres pays, et que peut-être même que l'enseignement du cinéma est tout à fait nouveau. Les films africains ne sont pas visibles en Afrique. Et ils ont plus accès aux autres cinématographies qu'à leurs propres films, qu'à leurs propres cinématographies.
Grâce à sa formation, Mariam Dieng a pu tout découvrir du cinéma panafricain. Il y a 6 ans, elle a été orientée ici par inadvertance.
Je peux dire que le cinéma a rénové un peu ma vie. Ça me donne envie de parler des choses qui ne plaisaient pas à des aînés. C'est un peu un instrument peut-être de révolte de manière très polie, mais leur dire que ce que vous avez fait ne me plaît pas.
L'étudiante veut réaliser un film sur le mariage forcé, des films au rôle subversif dans une société conservatrice, une subversion mal soutenue par l'État et les producteurs, estime Awa Gueye, étudiante en dernière année.
Quand on dépose nos projets, on nous traite de jeunes réalisateurs ou de jeunes créateurs, quoi. Comme quoi on n'est pas capable, on ne mérite même pas 10 millions pour réaliser nos films. C'est carrément, c'est fou quoi, on est capable.
Et c'est à cette nouvelle génération de prendre le pouvoir, insiste Moussa Sène Absa à la fin de sa masterclass.
Il faut que les cinéastes fassent des coups d'État, mettre un bon coup de pied dans la fourmilière et que ça saute.
Faute de financement, le master consacré au cinéma documentaire a fermé ici il y a 2 ans. C'est désormais une option dans le parcours des étudiants en art. William Delesseux, Saint-Louis, RFI.
Et donc ce soir aura lieu à Saint-Louis la cérémonie de gala des trophées du cinéma francophone, une cérémonie diffusée sur la chaîne France 5. Cette semaine en France, 17 nouveaux longs métrages ont débarqué sur les écrans français. Cela sent Noël avec des films d'animation, Astérix, Le secret de la potion magique ou Paddy, la petite souris. La chronique d'une adoption avec l'émouvant pupille de Jeanne Herry et puis un documentaire engagé. What You Gonna Do When the World's on Fire de l'italien Roberto Minervini, installé depuis une dizaine d'années aux États-Unis. C'est une chronique de la vie quotidienne de Noirs américains en Louisiane entre relégation économique, racisme persistant, difficultés sociales. Ce que nous montre Minervini, c'est une situation intenable dans un pays où tout semble empirer pour les Noirs américains. Roberto Minervini, que j'ai pu rencontrer lors de son passage à Paris et qui m'a tout d'abord expliqué la signification du titre de ce nouveau documentaire.
The title comes from a gospel from the end of the 19th century, and the original answer in the gospel
Le titre vient d'un chant religieux, un gospel de la fin du 19e siècle. Le chant pose la question, que vas-tu faire quand le monde prendra feu? Et la réponse c'est, je courrai retrouver mon Seigneur. Avec ces tensions raciales aux États-Unis, la signification a changé. Et je me souviens en avoir parlé avec Judy Hill. Judy, l'un des personnages de mon film.
Either burn or we're gonna either burn or just try to rescue ourselves because nobody has ever rescued us. And
elle m'avait dit que si le monde s'embrasait pour les Noirs américains, soit ils brûleraient avec, soit ils essaieraient de fuir car personne ne viendrait les sauver. J'ai décidé d'intituler mon film ainsi, car je pense que pour tenter de combler le fossé entre les communautés, il faut comprendre qu'il y a plusieurs mondes. Il faut prendre en main la situation des Noirs américains.
There are many worlds, and then the situation for black people is needs to be handled in a very, very particular way due to this this big gap.
Comment est-ce que Roberto Minervini, comment vous en êtes venu à vous intéresser à ces noirs américains de Baton Rouge?
Then in 2016, in July, a series of events.
En juillet 2016, une série d'événements a secoué les États-Unis. Tout d'abord, le meurtre d'Alton Sterling, abattu par des policiers blancs. Quelques jours plus tard, c'était Philando Castillo, ce jeune noir qui était dans une voiture avec sa copine et leur bébé, quand la police a ouvert le feu. Après cela, des noirs ont riposté, pour la première fois depuis longtemps. Un jeune noir a tué trois policiers à Dallas. J'ai ressenti le besoin d'aller voir ce qui se passait en Louisiane du Sud, qui est à quelques heures en voiture de mon domicile au Texas.
Southern Louisiana, which is just a few hour drive from where I live in Texas, and work on this project.
What time I said be inside?
7.
When or what?
When she likes come on.
What happened last week?
5 people got shot.
What happened the week before that?
They had a shooting at the gas station.
The film is shot between Baton Rouge and New Orleans, and Alton Sterling was killed in Baton Rouge.
J'ai tourné le film entre Baton Rouge et la Nouvelle-Orléans. Alton Sterling a été tué à Baton Rouge, et c'est là que j'ai rencontré les membres du nouveau parti des Black Panthers. Mais je suis également allé à la Nouvelle-Orléans car je voulais rencontrer des musiciens. Les Noirs américains ont toujours fait vivre leur identité collective grâce à la musique. Il y a eu les premiers enregistrements dans les années 1930 pour que les Blancs puissent mieux comprendre la culture noire. Depuis lors, la musique noire reste un vecteur de transmission. Donc je suis allé à la Nouvelle-Orléans et j'ai rencontré Judy Hill. Elle appartient à une famille de musiciens qui remonte à ses grands-parents.
Her grandparents, so during segregation times, and I got to know her, and I spent a year after spending so much time at her bar, we decided to work together.
Roberto Minervini, pourquoi est-ce que vous avez choisi cette esthétique particulière pour ce documentaire, What You Gonna Do When the World's on Fire, qui est en noir et blanc? Un très beau noir et blanc, très contrasté.
The black and white granted me a couple of things. The first is continuity with the iconography of the civil rights.
Le noir et blanc était utile à plusieurs points de vue. Déjà, il permet une forme de continuité avec les images des mouvements des droits civiques des années 60, des images de notre mémoire collective.
In a way, I found black and white to be a very democratic.
Et puis le noir et blanc est démocratique. Il permet à tous les personnages d'être sur un pied d'égalité, même s'ils appartiennent à des contextes différents. Donc le noir et blanc apporte égalité et continuité.
What's important, and that is again another big subtext of the film, is keeping a collective identity alive. And keeping an historical memory alive.
Et puisqu'on parle de mémoire, c'était aussi un objectif de mon film, conserver une mémoire collective vivace. C'est ce qui peut permettre la survie de la communauté. Le noir et blanc est une décision politique.
It's a political decision to keep a historical memory and perspective alive.
You should know why I'm teaching you how to fight. To protect yourself. Nowadays, people don't fight. They like to shoot.
Un choix politique pour un documentaire engagé. What you gonna do when the world's on fire?
My name is Lily Coulson and I'm 18 years old. These are my three best friends, Em, Bex, and Sarah. And this is the story of how my town, Salem, lost its mind.
On reste aux États-Unis, mais avec un tout autre type de film. Hein, Elisabeth, vous avez vu Assassination Nation de Sam Levinson, un film d'horreur féministe autour de l'odyssée sanglante de quatre adolescentes dans une banlieue cossue de Salem.
Aux États-Unis, oui. Alors les quatre héroïnes du film, c'est une bande de lycéennes délurées. Elles évoluent, hein, comme toutes les adolescentes de leur âge, dans un univers de selfies, d'émojis, de Snapchat et j'en passe. Et tout bascule lorsqu'un mystérieux hacker va pirater les téléphones portables de la ville. Donc en un clic, un seul, tous les habitants, tous les secrets des habitants, sexto, photos pornographiques, liaisons extra-conjugales, tout se retrouve sur Internet. Et donc Lily, qui entretient une liaison torride avec son voisin, un homme marié, va se retrouver au cœur de la vindicte populaire.
En fait, est-ce que c'est un film qui entend raconter l'Amérique d'aujourd'hui, l'Amérique post-MeToo, Elisabeth?
Oui, en tout cas, c'est un film qui brasse très large, hein, puisqu'il raconte cette génération obsédée par les réseaux sociaux, ultra-narcissisme, hystérie, lynchage à portée de clic. Hein. Le film débute avec un proviseur de lycée qui va être cloué au pilori, parce qu'en fait, dans ce vaste déballage, va être montrée une photo où il donne le bain à sa toute petite fille, hein, qui est encore un bébé, donc il est accusé de pédophilie, il va être mis à la porte avec perte et fracas de son lycée. Mais le cœur du film, hein, bien sûr, ce sont ces quatre filles qui vont être persécutées, poursuivies, chassées dans une ville, Salem, hein, qui symbolise bien la chasse aux sorcières dans l'imaginaire collectif. Sur le fond, Sophie, donc le film brasse beaucoup de choses. Sur la forme aussi, hein, Levinson a bien chargé la barque, on l'entendait un peu dans la bande-annonce. On navigue constamment de l'humour à l'horreur, sans ménager les références cinéphiliques, hein, du Shining de Kubrick au Carrie de Brian De Palma. Moi, j'étais vraiment impressionné, hein. Il faut une vraie habileté, hein, pour arriver à malaxer tout ça et à donner une forme qui est une forme de divertissement, hein, il faut le dire. Mais bon, le film dure 1h50, moi je pense que j'étais quand même en apnée pendant 1h48. Alors, c'est très très chargé.
Et pour respirer un peu, je vous propose une pause musicale qui va nous emmener en Russie dans le film dont nous allons parler, L'Étau de Kirill Serebrennikov. Et le titre éponyme, L'Étau, Summer, l'été, interprété par Zveri.
Лето, я купил себе газету. Газета есть, а пива нету. Я иду его искать. Лето, сегодня сейшен блен совета. Там будет то и будет это. А не сходить ли мне туда, да, 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 да. Лето, все хулиганы три гостета. У них, наверное, вендетта. А впрочем, это ерунда, да, 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 да. Лето, штаны истерты, как монета. Во рту дымится сигарета. Западаем. Лето. Недавно я услышал где-то, что скоро прилетит комета. И что тогда мы все умрем. Лето. Лето. Лето.
Vous êtes bien à l'écoute de tous les cinémas du monde sur RFI. Ce titre, Summer, l'étau en russe, interprété par le groupe Zveri, est tiré du film éponyme signé Kirill Serebrennikov, sélectionné en compétition au dernier festival de Cannes. On lui aurait bien décerné la palme, hein, Elisabeth et moi, enfin toute l'équipe de RFI à Cannes, et il est injustement reparti sans aucun prix au palmarès, mais auréolé d'échos enthousiastes. Pour en parler, nous ne pouvons recevoir son auteur, le cinéaste de 49 ans, assigné à résidence depuis plus d'un an, également directeur artistique du Centre Gogol, un théâtre contemporain réputé à Moscou. Kirill Serebrennikov est accusé de détournement de subventions publiques, des accusations qu'il rejette vigoureusement, clamant son innocence. Du coup, pour parler du film, nous recevons ce samedi son producteur français, Charles-Évrard Tchekhov. Bonjour.
Bonjour.
Et Joël Chaperon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des cinématographies d'Europe centrale et orientale et responsable de cette zone au sein d'Unifrance, hein, l'organisme chargé de faire la promotion du cinéma français à l'étranger. Alors, le film Leto commence avec ce titre. On suit en travelling des jeunes gens qui se faufilent à l'arrière d'un club, passent par les toilettes pour aller assister à un concert de rock. On est à Leningrad, l'actuel Saint-Pétersbourg, en 1982, sous Brejnev. Donc, le rock, hein, cette invention de l'Occident, est interdit, sauf dans cet endroit, le Leningrad Rock Club. Alors, Charles-Évrard Tchekhov, Joël Chaperon, ce club, il a vraiment existé?
Alors, il a vraiment existé, et c'était un peu le centre névralgique au moment de cette naissance de la vague rock en URSS. Il existe toujours un peu sous d'autres, une autre configuration, mais la rue Rubinstein où il se situe est toujours une rue très fréquentée le soir avec beaucoup de vie, et il existe toujours en effet.
Il y avait une certaine tolérance pour des choses qu'on pourrait appeler qualifiées de underground et qui n'étaient pas véritablement réprimées, au contraire, que le pouvoir essayait d'encadrer à l'époque, donc tolérées, pas reconnues, pas évidemment promues par le pouvoir, mais tolérées. Et au tout début des années 80, quand commence l'action du film, il y a une espèce de mini ouverture. On est juste après les Jeux Olympiques de 1980, il ne faut pas l'oublier, qui a donné lieu aussi au boycott de pas mal de pays. Et ça va se refermer quasiment au moment où Andropov va mourir et qui va laisser la place à Tchernienko avant que Gorbatchev arrive au pouvoir. Donc on est entre 1980 et 1983, et puis il y aura une chape de plomb qui va se refermer sur eux entre 83 et 85 jusqu'à ce que Gorbatchev arrive au pouvoir.
Alors le groupe de rock que l'on voit donc à l'écran dans les taux joue, c'est l'énergie du rock'n'roll, mais alors les jeunes spectateurs, c'est assez étonnant pour nous, spectateurs d'aujourd'hui, de 2018, les jeunes spectateurs de l'époque n'ont pas le droit de crier leur enthousiasme ou d'applaudir trop bruyamment. Pourquoi? Est-ce qu'il y avait une peur des soviétiques, hein, enfin au pouvoir, des communistes, des mouvements de foule, c'est ça?
Absolument. Il faut surtout pas qu'il y ait un mouvement de foule. Il faut surtout pas que la foule s'empare d'un spectacle quelconque. Moi-même, pour avoir assisté à un match de foot en 82 à Kiev, le premier rang était réservé aux militaires en uniforme, qui, dès qu'il y avait un but, se tournait vers le public pour faire sortir du stade les plus actifs des spectateurs. Donc, il n'était pas du tout question, évidemment, qu'il y ait ça. D'où le fait que je disais tout à l'heure que c'était toléré, mais c'était évidemment extrêmement encadré.
Le rock, Sophie, disait tout à l'heure, invention de l'Occident. Comment il était vu par les autorités dans ces années-là?
Ben en fait, je crois que justement, cette première scène qui est assez incroyable du film de Kirill Serebrennikov, où on a ce très long travelling, on est dans la cour, on monte par les échelles, par une porte, par une fenêtre dérobée, par les toilettes en fait du rock club, jusqu'à s'immiscer à l'intérieur de la salle sur la scène avec cette musique qu'on vient d'entendre qui se joue. Elle montre vraiment tout cet esprit, c'est-à-dire qu'il est, ce rock il est présent, il fascine toute cette jeunesse. Elle a envie de se laisser emporter par tout ce que ça peut représenter, de ce qu'ils ne connaissent pas, de liberté, d'expression libre. Et on voit bien que les autorités, on le voit dans cette scène, sont autour et ont quand même toutes les difficultés à contenir la joie spontanée, l'emportement spontané que peut ressentir le public jeune de cette époque-là.
Et effectivement, le pouvoir essaie de canaliser cette influence qui arrive de l'extérieur. On ne la combat pas comme on a pu la combattre il y a encore 10 ans auparavant, mais ils essaient de canaliser ça du mieux qu'ils peuvent, d'où encore le mot de tolérer, c'est accepter, encadrer, canaliser, sous surveillance, sous contrôle. On le voit bien d'ailleurs dans la scène où les textes des chansons sont visés par quelqu'un.
Il y a un comité de censure.
C'est ça, c'est pas de la censure, c'est enfin pour nous évidemment, vu d'ici évidemment que c'est de la censure, mais pour eux c'est plus on vise les textes, on soumet à des personnes qu'on estime être compétentes parce que approuvées par le pouvoir, des textes qui pourraient ne pas qui visent évidemment à ne pas perturber la foule.
Donc ils contrôlent, et puis en même temps est-ce qu'ils n'essaient pas aussi de créer une sorte de rock d'État?
Aussi, alors, c'est l'émergence effectivement d'un rock aussi national qui, on le voit avec le personnage de Mike Naumenko, qui au départ est totalement inspiré, pour pas dire copié, du rock anglo-saxon, avant que des gens comme Tsoi et d'autres arrivent à trouver une voix un peu différente, qui ne soit pas totalement influencée par le rock anglo-saxon, mais qui soit une voix à eux. Naumenko est beaucoup plus influencé par le rock anglo-saxon que ne le sera Tsoi après.
Effectivement, le groupe que l'on voit jouer sur la scène lors de cette première séquence, c'est celui de Mike Naumenko. Et puis l'un des jeunes hommes que l'on suit, hein, qui a des chansons à lui présenter, c'est Victor Tsoi. L'un et l'autre ont réellement existé. Le deuxième, hein, Victor Tsoi, qui était métis, hein, eurasien, est même devenu une icône avec son groupe Kino, dont le film montre en fait presque la naissance. Hein.
Voilà, c'est les prémices du groupe Kino. Et ce qui est intéressant aussi dans ce film, c'est de montrer cette influence de la musique occidentale qui a fasciné les tout premiers musiciens rock underground comme Mike Naumenko, qui était en effet une légende à l'époque, pour finalement, avec la génération qui a tout de suite suivi dans les années 80, dès le début des années 80, dont Kino et Victor Tsoi, s'approprier toutes les valeurs de ce rock occidental et en fait en le transcender, en le mêlant, en l'hybridant avec toute la profondeur et les particularités culturelles de la Russie. C'est ce que le film fait découvrir aussi, et je crois de manière assez réussie, parce que à la fois on a cette musique qu'on entend, donc c'est un film vraiment extrêmement musical, mais on a aussi tout l'esprit qui soufflait à cette époque-là, qui reprend bien sûr les codes universels du rock.
Alors, Tsoi et Naumenko, le film les présente donc dans leur jeunesse, hein, sous l'angle d'un triangle amoureux formé avec Natacha, la femme de Mike.
Up to the facts, I'm tense and nervous, can't relax. Can't sleep cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a relay wire. Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Run, 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 run away. Oh, psycho killer, qu'est-ce que c'est? Better run, 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 run away.
Товарищи комсомольцы, суки, ну лучше убейте меня, я же выродок. Ой, бля, перепутал, ублюдок!
You start a conversation, you can even finish it. You're talking a lot, but you not say anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something false, why are you saying it again? A psycho killer, just to say.
Fa 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 fa, fa 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 fa.
Better run, 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 run away.
Alors Joël Chaperon et Charles Évrard, Tchekhov, Leto est tourné en noir et blanc, mais traversé de séquences oniriques, fantasmagoriques en couleurs avec des inventions graphiques, un petit côté comédie musicale déjantée, avec un personnage intitulé, enfin qui se nomme le sceptique, c'est qui ?
Bah, le sceptique, en fait, c'est un peu, c'est le cœur grec, c'est le cœur antique, et c'est aussi la conscience de tous ces personnages, et c'est aussi un mécanisme créatif et narratif utilisé par Kirill Serebrennikov, je pense, très habilement, parce que ça permet aux spectateurs et au film de se distancier d'une certaine approche historique et rigoureuse du biopic. C'est pas un biopic rigoureux, vous l'avez dit, évidemment, ce sont des personnages qui ont existé, mais ce qui intéresse Kirill Serebrennikov dans ces personnages, c'est l'esprit de liberté individuelle, inaliénable, qui peut exister, quel que soit le contexte et quelle que soit l'époque.
Oui, et puis en plus, ce personnage du sceptique, c'est vraiment le vecteur entre ce qui se passe à l'écran et le spectateur, notamment le spectateur non russe. C'est-à-dire que ça vous met en position d'imaginer ce qu'ils avaient dans la tête et qu'ils ne pouvaient pas faire à l'époque. À chaque fois que le sceptique apparaît, c'est aussi sur des scènes très importantes qui montrent comment cette scène aurait pu se développer s'ils avaient eu la liberté de continuer un concert, continuer une rencontre, continuer quelque chose. Mais malheureusement, à l'époque, c'était interdit. Et il y a une scène, notamment après le tramway, où le fameux sceptique qui donc vient nous dire « ceci n'a pas existé », et il y a à un moment, il dit « mais on aurait tellement aimé ». Et vous êtes en fait dans la tête de tous les personnages où ils se projettent sur quelque chose, un peu comme ces histoires de concert où vous disiez que les gens sont statiques parce qu'on on les laisse pas se lever, il n'y a pas de mouvement de foule, et ben justement il y a un moment, il y a un concert où on imagine, et on le voit à l'écran, tout ce qui serait un véritable concert avec un engouement total de la foule, mais ça n'a pas existé et pourtant ils auraient tellement aimé. Et puis il y a une deuxième chose sur le noir et blanc, c'est que pour beaucoup de metteurs en scène russes ou en tout cas soviétiques qui sont nés à cette époque-là, l'Union soviétique c'était en noir et blanc. L'Union soviétique n'avait pas de couleur. Et Alexei German dit que, par exemple, à chaque fois qu'il a tourné un film sur l'Union soviétique, il n'imaginait pas pouvoir mettre de la couleur. Et la seule couleur qu'on trouve dans le film, c'est justement dans ces scènes qui n'ont pas existé, parce que ce sont des scènes de rêve, ce sont des scènes totalement fantasmées, et c'est le seul moment où il y a la couleur. La couleur est dans le rêve, et la réalité, elle est en noir et blanc.
Et le sceptique, ça pourrait être aussi la voix de Kirill Serebrennikov.
Mais il
était tout petit à ce moment-là, il était tout jeune, puisqu'il a 49 ans.
Il était tout petit, il est tout jeune. Ça n'a jamais été un fou non plus du rock des années 80, il le dit lui-même. Parce que ce qui l'a vraiment intéressé là, c'est l'esprit de cette génération auquel il trouve un reflet et un écho très contemporain dans ce qu'il fait lui à Moscou, avec sa troupe, au Gogol Center, dans ses films, dans ses mises en scène d'opéra. Et je crois que c'est ça qui l'intéressait, c'est ça qu'il avait envie d'exacerber. Et ce sceptique, effectivement, qui dit que ça n'a jamais existé, finalement, il permet aussi de montrer que ça existe à l'écran et ça existe dans l'imaginaire. Et parce que dans le film, toutes ces scènes, elles existent vraiment, on les voit.
Ces jeunes rockers, hein, Mike Naumenko et Victor Tsoï en tête, ils n'ont pas forcément, en tout cas dans le film, des textes très politiques. Je pense qu'on est à la période, on est au moment de la guerre, de l'invasion russe en Afghanistan. D'ailleurs, l'un des protagonistes, un musicien, ne sait pas s'il va être appelé ou pas, mais eux, enfin, en tout cas, ne les voient pas à l'écran forcément en parler et en débattre.
Non, je crois que c'est aussi un parti pris du réalisateur de pas créer un film à la couleur de premier plan politique ou contestataire. Et ça, c'est quelque chose qu'on a entendu, qu'on a pu dire aussi à de nombreuses reprises. Ça n'est pas un film sur l'absence de liberté ou sur l'oppression ou sur la censure. C'est tout au contraire un film sur la liberté inaliénable. Donc on revient à cette question de l'exil intérieur, qui pour moi est aussi universelle aujourd'hui. C'est-à-dire que, quel que soit le contexte, en fait, vous avez la possibilité de penser, de faire des choix individuels dans votre vie, des choix créatifs, des choix de pensée, des choix d'amitié, des choix de comportement auprès des gens qui vous entourent. Et c'est ce que ce film raconte. C'est un film sur la liberté, pas un film sur l'oppression. Et en effet, les personnages ne sont pas suivis dans des mouvements de contestation. Et les textes des chansons, on peut y lire, évidemment, un état des lieux de la société et de cette génération, de niveau de vie de cette génération vis-à-vis du système, entre guillemets. Mais c'est presque un effet collatéral de ces textes. Ces textes ne se préoccupent pas de ça. Ils sont à un niveau qui est différent, supérieur ou en tout cas à côté.
Et de toute façon, ces textes-là, admettons même qu'ils aient été contestataires, par définition, ils n'auraient jamais pu être prononcés en public. Donc de toute façon, ils savaient aussi qu'il n'était pas question qu'ils fassent des textes politiques. C'est, il y a la liberté aussi, à partir du moment où ils se produisent en public, que ce soit dans des concerts, dans des clubs ou bien dans des appartements, ils savent aussi jusqu'où ils peuvent aller. Donc il n'est pas question que ces textes-là soient politiques. Il y a eu un immense chanteur qui s'appelait Vladimir Vysotsky, qui lui aussi a été... passablement sous le joug du pouvoir. Il n'y a pas de texte directement contestataire chez Vysotsky. C'est aussi, comme le dit Charles Évrard, c'est des textes qui sont un peu à la marge, mais il n'était pas question, bien évidemment, qu'ils appellent ni à renverser, ni à dire que l'Amérique est un pays formidable ou que la France est un pays génial. C'était absolument interdit. Il n'y aurait pas ce film s'il y avait eu ces textes-là.
Comment ils faisaient pour se procurer des instruments? Tout à l'heure, Charles Évrard, vous parliez de guitare. Et comment ils faisaient pour entendre, pour même se passer les disques de Bowie ou de T-Rex dont
alors,
ils parlent?
Il y avait beaucoup de bricoles, je crois, à l'époque. Alors, sur les échanges de disques, c'était assez amusant parce qu'à partir des années 60, il n'y avait pas d'acétate disponible, ce qui permet de fabriquer des vinyles. Donc, un des matériaux qui se rapprochait le plus de l'acétate, c'était les radiographies de rayons X médicales. Donc, vous avez, à partir des années 60, des disques, des Beatles, par exemple, qui sont gravés et découpés pour faire des vinyles.
Et on voit encore la radiographie.
Avec, vous avez un crâne, vous avez une colonne vertébrale, des poumons, des choses comme ça. Après, les instruments de musique... Il se les procurait, alors il y avait plusieurs moyens, mais je pense que Joël Chaperon peut répondre beaucoup mieux que moi à cette question, parce que il a participé à l'alimentation.
J'ai effectivement, en 1982, apporté une guitare électrique sans cordes. Je ne sais pas où il se procurait les cordes, mais c'était une époque où effectivement on avait, entre guillemets, quand on allait là-bas, des sortes de commandes. J'ai aussi passé un pare-brise de voiture, comme quoi tout peut arriver. Mais c'était des gens comme moi qui... on passait pas de choses interdites, parce que c'était pas interdit d'apporter une guitare électrique, bien évidemment. Mais c'était des choses qui n'existaient pas en tant que telles pour avoir accès aux instruments. Il fallait avoir aussi des permissions.
Et ouais. Les musiques, T-Rex, Bowie, etc., c'était autorisé?
C'était pas des choses interdites, bien sûr que non. C'était des choses effectivement qui étaient autorisées. C'était, on vous embêtait plus quand vous passiez Le Monde ou Le Nouvel Observateur que quand vous passiez une guitare électrique. Moi qui habitais là-bas juste après la guerre d'Afghanistan, enfin le déclenchement de la guerre d'Afghanistan, l'Humanité n'était pas trouvable là où j'habitais, au Kazakhstan, à Almaty, parce que l'Humanité parlait de la guerre en Afghanistan d'une certaine manière à l'époque, alors que je ne pouvais avoir moi accès parmi les journaux de langue française qu'à un journal qui s'appelait Le Drapeau Rouge, qui était l'organe du Parti communiste belge, qui était beaucoup plus proche de la ligne de Moscou que l'Humanité ne l'était.
Mike Naumenko, que l'on voit dans le film Leto, comme une sorte de mentor, il est plus âgé, c'est peut-être un peu le grand frère, enfin, il est plus âgé que Victor Tsoï, sert de mentor parce qu'il maîtrise l'anglais, c'est un des...
C'est l'une des raisons, c'est l'âge aussi, c'est le fait qu'il soit déjà très installé dans cet underground naissant. Et il maîtrise l'anglais, et c'est vrai qu'on voit dans le film qu'il traduit certaines chansons et avec quelques scènes qui sont assez drôles d'ailleurs, où ce public russe qui a une certaine fascination pour ces textes étrangers en découvre le sens, on voit ça en effet dans le film. Donc c'est aussi l'une des clés, c'est qu'il apporte en fait cette lumière de l'Occident.
Знаете, Виктор, как по мальчике? Виктор Альбертович, оставай подарок.
Тогда для ускорения придется воспользоваться межгалактической ракетой. Согласна? Давай.
I'm a passenger, and I ride and I ride. I ride through the city's backsides. I see the stars come out of the sky.
Yeah, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight.
Whoa, 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 whoa.
get into the car. Will be the passenger where I feel the city tonight. City, city, real inside.
Yes, the bright and hollow sky. You know it looks so good tonight.
I am a passenger and I ride and I ride. I ride through the city's backside. I see the stars come out of the sky.
Là, on est dans un tramway et les passagers se mettent à chanter ce titre d'Iggy Pop. C'est le rocker russe Roma Zver qui joue Mike Naumenko dans Leto et qui assure toute la musique de ce film avec son groupe Zveri. Il nous avait raconté à Cannes comment il avait travaillé pour rendre le son de l'époque.
Ça a été beaucoup de travail. Nous ne voulions pas mentir aux spectateurs. Il fallait donc rester proche du son de l'époque. On a restauré des instruments, mais on a voulu rester au plus près de la réalité. Victor Tsoï, par exemple, avait une guitare à 12 cordes, mais il lui manquait les deux premières. On ne sait pas exactement pourquoi. Du coup, on a joué avec une guitare comme la sienne. On a restauré également une vieille batterie et on a cherché vraiment des sonorités similaires à celles de cette époque, tout en étant accessible à un spectateur d'aujourd'hui habitué à une certaine qualité. Il a fallu que le guitariste de mon groupe joue de la basse pour perdre en qualité technique, mais gagner en authenticité.
Donc, Roma Zver qui parle des instruments bricolés de l'époque, pas très pro, et il explique que, du coup, il a fait jouer de la guitare à son bassiste pour perdre en qualité technique parce que ça sonnait, ça devait pas sonner trop pro quoi. C'était un peu c'était des amateurs comme au début du mouvement punk, les rockers de l'époque.
Ouais, c'était des amateurs. Premièrement, ils n'étaient pas confrontés à d'autres groupes ou à des équipements simplement pour écouter de la musique dans des bonnes conditions, donc il n'y avait pas de point de référence. Et puis c'était tout nouveau, c'était tout nouveau. Il y avait les moyens du bord, comme on l'a dit plus tôt. Et donc en effet, il fallait restituer ce son, cette spontanéité, ce son un peu bricolé, avec les instruments techniquement très au point d'aujourd'hui. Donc il a fallu récupérer des instruments anciens de cette époque-là, remixer en studio les enregistrements pour les faire sonner comme à l'époque, simplifier le nombre de pistes. Enfin, il y a eu un travail vraiment très en profondeur sur cette musique pour restituer cet esprit.
Grain,
ce ton, ce grain, cette tessiture musicale, et je trouve que ça marche très très bien dans le film, et ça marche bien dans la BO aussi.
Le tournage du film, il s'est fait dans quelles conditions ?
Dans des conditions qui sont assez proches de ce qu'on voit quand vous voyez cette première scène sur la plage. En fait, tout le monde a vécu sur le tournage ensemble, tout le monde était là, tout le monde dormait là, tout le monde était à Saint-Pétersbourg. Les gens n'étaient pas, les participants, soit les acteurs ou les techniciens, n'étaient pas forcément de Saint-Pétersbourg. Tout le monde était ensemble. Ça a été un peu comme une espèce de communauté pendant tout le tournage. Évidemment, jusqu'à quasiment la toute fin du tournage, puisque Kirill Serebrennikov a été arrêté sur le tournage quelques jours avant les dernières scènes.
Et comment vous avez du coup travaillé avec lui ? Parce que je crois qu'il a monté le film chez lui, puisqu'il a signé à résidence. Comment vous avez communiqué ?
En fait, pour ces dernières scènes qui restaient à tourner sont des scènes qui avaient déjà été répétées, heureusement, ce qui répète pas mal. C'est un metteur en scène de théâtre aussi, donc il a l'habitude de faire répéter ses comédiens pour avoir quelque chose de très spontané à l'écran quand il les filme. Donc tout ça avait été très répété. Donc ça a pu être tout simplement enregistré sur la base des instructions et des guides qu'il avait donnés lors de ses répétitions. Après, sur le montage, la communication a pu se faire par en direct, à travers ses conseils, ses avocats, par qui transitaient des notes de la part de Kirill, et sur des clés USB des ordinateurs et des versions successives du montage. Donc ça a alourdi évidemment beaucoup le procédé. Et sur la partie musicale, ça a été aussi très compliqué parce que Roma Zver n'a pas pu communiquer directement avec Kirill. Ça s'est fait à distance, par avocat interposé, ce qui n'est évidemment pas le contexte le plus favorable.
Où on est tourné du procès, quoi. Le procès de Kirill Serebrennikov, il s'est ouvert le 7 novembre dernier. Donc je le rappelle, il a accusé de détournement de subventions publiques dans le cadre de ses activités au centre Gogol. On en est où? Le procès se poursuit, Joël Chaperon?
Alors le procès, effectivement, a commencé il n'y a pas si longtemps que ça. Il a été assigné à résidence depuis août 2017. Le procès a commencé il y a maintenant un peu plus d'un mois et demi. Ils en sont encore aux auditions. Kirill a déjà pas mal parlé. Maintenant, il y a des témoins qui sont appelés à la barre. Le procès a été interrompu avant-hier parce qu'il y a une des deux personnes majeures qui a eu un problème d'hypertension. Et donc, ils ont interrompu le procès. Pour l'instant, il est censé reprendre le 10 décembre. On n'en connaît pas l'issue. Il y a 250 tomes de documents à dépouiller. Il y en a 4 qui ont disparu parce que, visiblement, ils avaient été demandés par le FSB et ils ne sont pas revenus au tribunal. Donc, il manque 4 tomes de documents. Voilà, on en est aujourd'hui là et on ne sait pas quand aura lieu la fin de ce procès-là. Et on ne sait évidemment pas comment il va se terminer.
Parce qu'il risque 10 ans de prison. Enfin, la peine maximale, c'est a priori prévu par le code.
Oui, absolument. Et en plus, comme j'ai coutume de dire, de toute façon, ce que je dis toujours, c'est que en Russie, les lois sont faites pour être applicables et pas forcément appliquées. On les sort quand on en a besoin parce que Kirill était aujourd'hui dans le collimateur du pouvoir. Demain, ça pourrait être un autre metteur en scène de théâtre, ça pourrait être un écrivain, ça pourrait être quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, ce qu'on reproche à Kirill de son histoire de malversation, on peut le sortir pour à peu près n'importe qui aujourd'hui parce que la bureaucratie comptable en Russie est faite de telle sorte que vous pouvez être accusé de tous les maux très facilement, mais simplement on ne va pas accuser tout le monde, on accuse que ceux dont qu'on a besoin d'accuser.
Charles Evrard-Tchekhov et Joël Chaperon, merci. Leto, donc, je vous invite à aller le voir dès que vous pouvez. En tout cas, il vient de sortir en salle en France. La bande originale est disponible sur les plateformes de streaming, mais également en CD et en vinyle.
Voilà, chez Milan.
Chez Milan Musique. Joël Chaperon, vous avez signé avec Christelle Verjade un livre sur Moscou et Saint-Pétersbourg mis en scène. Donc, des belles balades avec des films. Tous les cinémas du monde, non?
Si, si, absolument. Merci beaucoup d'abord. Mais c'était aussi pour signaler la sortie d'un double DVD Blu-ray d'un film avec Victor Tsoï qui s'appelle L'Aiguille et chez Badlands. Et le film est vraiment important parce que c'est un film qui a marqué toute une génération. Donc il joue dedans le rôle principal au moment où lui était déjà une légende. On est quand même bien quelques années après l'action du film Leto. Et le film avait fait 15 millions d'entrées en Union soviétique parce qu'on était encore en Union soviétique à l'époque. Et comme Victor Tsoï est mort accidentellement dans un accident de voiture, la légende n'a fait que s'amplifier et il y a eu 15 millions de spectateurs supplémentaires après. Le film a fait 30 millions de spectateurs au tournant des années 80 et 90. Il sort en France ce mois-ci.
Ça reste moins que ce que va faire Leto en France, bien sûr.
On l'espère. Tous les cinémas du monde, c'est fini pour aujourd'hui. Au micro, Elisabeth Lequéré
et Sophie Torlotin. À la réalisation, Fanny Renard.
On se retrouve samedi prochain, même heure, même cinéma.
Tous les cinémas du monde. Sophie Torlotin, Elisabeth Lequéré. Vous avez raté la séance? Podcastez ou réécoutez tous les cinémas du monde sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.